France Inter.
Bonjour Frédéric, j'ai passé mon enfance devant les Guignols et Louis de Funès, donc là, j'étais déjà au taquet. J'ai découvert Amy Winehouse et Stevie Wonder, que je connaissais de nom, mais très mal en discographie et en biographie. J'ai vu la trilogie du Parrain, les deux premiers géniaux, le troisième un peu moins, mais bon, quand même. J'ai prévu de regarder Princesse Mononoke et Le Voyage du Chihiro. J'ai récupéré tous les albums des Fugees et de Lauryn Hill. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai très envie de jouer à Final Fantasy, Prince of Persia et Assassin's Creed Mirage, et je résiste donc à m'acheter les machines nécessaires. Voilà, tout ça en grande partie grâce à ma bibliothèque de quartier, pour ne pas se ruiner, et surtout grâce à Blockbuster. Alors merci, merci à toute l'équipe pour ces 5 premières semaines d'été, et en route pour les 3 dernières, avec énormément de plaisir. Salut à tous.
To be or not to be, not to be.
Vous savez, ça fait maintenant plusieurs années que Blockbuster existe et il arrive que je rencontre des auditeurs et des auditrices de l'émission. Et c'est toujours très cool parce que j'ai les meilleurs auditeurs du monde. Mais il y a toujours un truc qui me fait marrer. Et ça rate pas, hein. C'est en général les parents ou grands-parents qui me disent « Oh, notre petit-fils ou notre petite-fille adore votre émission ». C'est comme quand les gens accostent Michel Drucker. Oh, ma grand-mère vous adore! Sauf que moi, mon public cible, c'est comme la première dame, c'est les prépubères. En général, ils ajoutent parce que moi, le jeu vidéo, vous savez, j'y comprends rien. Depuis 9 ans, on parle de jeux vidéo une seule fois par semaine. Hein. On a aussi parlé d'ABBA, de Starmania, Victor Hugo, Agatha Christie, Friends, Buffy, Pierre Richard. Mais ce qui reste dans la tête des gens, c'est ah oui, Blockbuster, c'est l'émission de radio qui parle de jeux vidéo, là! Le jeu vidéo a beau être depuis longtemps l'industrie du divertissement qui génère le plus de bénéfices, il continue de n'intéresser et d'être compris que par celles et ceux qui y jouent. En parler une heure par semaine sur un média généraliste, c'est tellement rare que ça donne l'impression au grand public qu'on parle que de ça. C'est fascinant la perception des gens, hein. En même temps, ça ne me surprend pas. Ça fait des années qu'un sketch d'un humoriste de 3 minutes sur une journée donne l'impression que France Inter est de gauche.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
On dit souvent que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit, sauf quand c'est le studio de jeux vidéo Rockstar qui s'en charge. Après le phénomène qui a constitué le succès de la franchise de jeux vidéo GTA, il était difficile d'imaginer pouvoir réitérer l'exploit d'un jeu en monde ouvert avec une narration, une réalisation et un propos politique aussi soigné. Pourtant, Red Dead Redemption, un western crépusculaire, a réussi, tout en se réinventant, à creuser le sillon des jeux dits adultes déjà initiés par GTA. Avec derrière lui deux opus très différents, qui encore aujourd'hui restent des références en la matière. Pour revenir sur ces jeux auxquels il faut avoir joué, j'ai avec moi Erwan Cario, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Libération, animateur du podcast Silence on joue, on en est à la saison 17.
Et oui.
Et on peut vous voir streamer sur Twitch de temps en temps.
C'est ça, deux fois par semaine.
Avec nous également pour la première fois, Diogo Ribeiro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisé en jeux vidéo et vous êtes journaliste game culte et aussi pour les numériques.
C'est ça, exactement. Je suis très fier de participer à une émission du service public car on sait que c'est important.
Exactement, c'est important, c'est bien de le rappeler. Avec nous à distance, Christopher Klippel, bonjour.
Salut.
Vous êtes un spécialiste des jeux Rockstar et vous êtes le fondateur et rédacteur en chef de Rockstar Mag.
C'est ça, oui. Donc du coup, je suis très heureux de revenir après avoir parlé de GTA, très heureux de venir pour parler de l'autre licence maîtresse de Rockstar, à savoir Red Dead.
On est ravis aussi. Nous aurons également quelques mots de Romain Danois, l'auteur du livre La saga Red Dead, Vengeance, Honneur et Rédemption, chez Third Edition, qui partagera avec nous sa vision de la saga à quelques reprises dans l'émission.
The Game Award goes to
Roger Clark as Arthur Morgan, Red Dead Redemption.
Je suppose que c'est le moment où des mots sensés devraient sortir de ma bouche. Merci beaucoup. J'accepte humblement cette récompense, surtout en regard des incroyables performances des autres nominés ce soir. Et je partage avec vous ce moment particulier, un moment qui marque l'avènement d'un âge d'or de ce médium. J'aimerais aussi remercier Rockstar Games pour cette incroyable opportunité. Et pour avoir cru en moi. Merci à tous pour cet incroyable moment.
C'était un extrait où on entend Roger Clark qui reçoit des mains de Christopher Waltz et Rosa Salazar le Game Award de la meilleure performance dans un jeu vidéo pour son rôle d'Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2. C'était en 2018. Alors avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut préciser aux auditeurs, Erwan Cario, de quoi parle Red Dead Redemption.
Alors le premier Red Dead Redemption, celui qui est sorti en 2010, donc c'est les aventures de John Marston, qui se passe en 1901 ou dans ce...
11.
1911, oui c'est ça, juste début du 20e siècle, et donc c'est la fin de l'Ouest américain. John Marston, en fait c'est un ancien hors-la-loi et il cherche à s'installer avec sa famille tranquillement, sauf que son passé le rattrape, il se retrouve à devoir pourchasser ses anciens complices et donc ça donne la première grande saga Red Dead Redemption et plus tard donc 2018, Red Dead Redemption 2. Chose étonnante, c'est ce qui s'est passé avant. On aurait pu penser que ça va être la jeunesse de John Marston, mais pas du tout. On incarne Arthur Morgan, on vient d'entendre cet acteur dont je n'ai plus le nom, parce que pour moi c'est la voix d'Arthur Morgan et rien d'autre.
Roger Clark,
et on incarne donc à la fin là, du 19e siècle, à toute fin, toujours dans ce côté crépusculaire, le nouveau monde qui arrive, etc. Les aventures de cette bande de hors-la-loi, d'Arthur Morgan pour le coup, qui fait partie de cette bande de hors-la-loi et qui doit essayer de survivre et il se rend compte que son temps est aussi révolu à lui, le hors-la-loi, le monde va changer, est-ce qu'il peut changer? Pas sûr, c'est toute l'histoire de Red Dead Redemption.
Comment s'est passée votre rencontre avec le premier Red Dead Redemption quand vous l'avez eu entre les mains?
Il y a, d'une part, c'était pas quelque chose qui m'attirait absolument, le western. Bon, le western, j'ai grandi avec les westerns, les films, mais c'est pas un genre très installé dans le jeu vidéo, bizarrement. Pourtant, il y a des pistolets, on doit tuer des gens et tout ça, mais dans le jeu vidéo, il n'y avait pas énormément de titres de western. Donc, je sais pas que j'y suis allé à reculons, mais j'avais pas une attente folle. Et puis, dès les premiers instants... je pense que c'est la première fois où on se rend compte à quel point le jeu vidéo permet une évasion, d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, ailleurs, à une autre époque. On est transporté, une machine comme ça, on est téléporté dans cet Ouest américain qui est en plus très mythologique. Enfin, c'est vraiment la mythologie de la mythologie américaine, la mythologie de cet Ouest américain, et avec des décors. Moi, quand j'ai cabré mon cheval dans un décor qui ressemblait à Monument Valley, enfin, on se dit waouh, c'est ça le jeu vidéo maintenant. Ça fait des années que je joue et je suis en train de voir ce que peut devenir le jeu vidéo.
Diogo Ribeiro, quand vous avez découvert...
Juste Diogo, tu m'as appelé.
Oui, Diogo, voilà. Ouais.
On dirait que je suis médecin.
Ça sera plus simple.
Quand vous avez découvert Red Dead Redemption 1, comment ça s'est passé?
J'étais au collège, c'était un ou deux ans après sa sortie, je pense, on me l'avait prêté. Et je l'avais fait sur ma PS3 à l'époque, et je me souviens que c'était un peu comme Merwin, c'est la première fois où la reconstitution d'une époque différente de la nôtre m'a tellement frappé au niveau de l'immersion et de la précision du détail. J'avais fait GTA 4 avant, qui était devenu directement mon GTA 4 préféré, justement parce qu'il avait...
Avec Monsieur Nico Bellic.
C'est ça, parce qu'il marquait aussi un point de changement pour Rockstar, on en parlera peut-être plus tard, mais il y avait quelque chose d'assez unique dans le 4, et Red Dead Redemption, c'était vraiment une sorte de poursuite logique dans cette volonté de faire des choses plus matures et plus intéressantes, c'est pas le mot, mais plus méticuleuses. Et ouais, j'étais frappé par je me disais, il y avait déjà de grandes histoires dans le jeu vidéo avant, mais je ne les avais pas faites à l'époque, en tout cas, pas encore. Aujourd'hui, si, voilà, mais à l'époque, c'était peut-être le premier grand jeu auquel l'histoire m'avait frappé à ce point-là, en fait.
Oui, il y a eu un avant et un après.
Pour moi, oui. Après, pas pour le jeu vidéo en général, oui. Je pense, mais pour moi, oui, clairement.
Christopher, que représente Red Dead Redemption dans l'histoire du studio Rockstar ?
Red Dead, c'est un petit peu le jeu de... Alors, pas de la maturité dans le sens où, effectivement, quand ils développent les GTA, la maturité, on l'a. Mais en fait, il va y avoir, effectivement, comme on l'a dit, un avant et un après Red Dead, parce que ben, il arrive seulement 2 ans après GTA 4, qui, lui, déjà, avait un peu marqué, on va dire, le changement brutal chez Rockstar. C'est-à-dire que Rockstar, avant, ils faisaient des très bons jeux, mais ils étaient connus essentiellement pour GTA. Ils avaient sorti des jeux assez incroyables comme Canis Calamedis, alias Bully. Mais bon, ça a passé un petit peu inaperçu. Tous les jeux Rockstar, même les Manhunt, etc., avaient un petit succès critique, mais commercialement parlant, voilà, c'était pas non plus complètement fou. Et avec Red Dead Redemption, Rockstar vont mettre tout le monde d'accord en montrant que, en plus de savoir faire de très bons jeux, ils savent faire autre chose que du GTA. Parce que ça va être le premier gros succès commercial hors GTA dans l'histoire de Rockstar, hein, puisque Red Dead Redemption s'écoulera à plus de 18 millions d'exemplaires. Ça va être pour la première fois qu'un jeu autre que GTA va faire des chiffres qui peuvent rivaliser avec GTA. Et ça va vraiment montrer à quel point Rockstar est capable de faire du jeu vidéo, pas seulement des jeux de gangsters, mais justement avec une histoire complètement incroyable et tellement bien écrite, hein. Vraiment, là, on peut souligner le travail de Dan Houser et de ses équipes avec Adam Tedman et bien d'autres, où on a vraiment un récit. C'est la première fois pour moi, on arrive à allier monde ouvert et narration. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on voyait vraiment les studios comme Naughty Dog, par exemple, qui sont spécialisés dans la narration avec des jeux très couloirs. Là, Red Dead Redemption, c'est un petit peu l'alliance des deux, où on a un monde ouvert, mais quand même une histoire extrêmement bien écrite, bien ficelée, avec des personnages ultra charismatiques, et effectivement, tout ce qui va à côté, une gestion parfaite de l'open world, avec l'arrivée des premiers événements aléatoires qu'on n'avait pas dans GTA 4. Une gestion de la météo, des conditions climatiques qui donnent des panoramas et des effets complètement dingues. C'est vraiment pour moi le jeu le plus abouti et le plus complet de Rockstar à cette époque-là, qui vont vraiment les faire passer dans une autre dimension.
Oui, d'ailleurs, cette dimension de monde ouvert, c'est aussi quelque chose qui a particulièrement interpellé Romain Danois quand on lui a posé la question.
On peut dire que Red Dead Redemption a été écrit vraiment comme un western, avec cette idée de toute l'histoire qui a fait que le western est une terre de conquête, une terre de découverte, aussi une terre d'opposition entre les peuples, et ce qui fait de Red Dead Redemption finalement un jeu avec une ADN tout à fait particulière, voilà, ce qui fait qu'il est très différent des autres. Quand il sort en 2010, le monde ouvert, il est quand même assez impressionnant. Alors il y a des antécédents déjà dans le jeu vidéo, notamment avec Rockstar et GTA, hein, Grand Theft Auto, notamment le 4 qui est sorti 2 années auparavant. On avait des mondes ouverts qui étaient déjà très développés et très imbriqués, je dirais, dans la narration, dans le storytelling de manière générale. Là où Red Dead Redemption, on amène quelque chose d'un peu nouveau, c'est qu'il y a effectivement une espèce d'entrecroisement des différentes missions proposées aux joueurs qui fait que l'expérience du monde ouvert est beaucoup plus organique.
Erwan, Diogo, ce qui m'a marqué, moi, quand j'ai fait Red Dead Redemption 1, et c'est d'ailleurs toujours le cas pour le 2 également, c'est cette possibilité de passer à côté de plein de choses, plein d'événements, d'avoir un jeu où finalement, quand vous l'avez fait en une fois, vous avez peut-être passé à côté de gros pans de l'histoire. C'était quelque chose de jamais vu, en fait, jusqu'à maintenant.
Oui, c'est un niveau de production qu'on n'a pas beaucoup vu depuis, mis à part les GTA, les Red Dead et aujourd'hui un jeu comme Elden Ring par exemple. Oui. Ça fait partie de ces jeux. Alors, on est dans une émission qui s'appelle Blockbuster. C'est des super blockbusters. Il y en a quelques-uns dans l'histoire du jeu vidéo. C'est des budgets qui sont monumentaux. C'est des conditions de travail qui sont catastrophiques. Il faut aussi signaler ça pour notamment les histoires de Rockstar. Ils sont connus pour ça. Mais ça donne des jeux totalement démesurés, avec des éléments narratifs dissimulés, des choses que les joueurs ne vont pas voir, même des interactions avec les éléments du décor, surtout dans le 2, avec des collections de petits détails que personne ne va remarquer sur le bois qui va se couper dans un sens puis dans l'autre, des trucs comme ça. Et ce sont des ampleurs de production que seuls quelques studios au monde peuvent se permettre.
Diogo, c'est quand même dingue d'imaginer par exemple un livre en littérature qui serait complètement différent suivant celui qui le lit, c'est-à-dire qu'aurait une intrigue mais que tout le monde aurait vécu différemment.
Après, les gens interprètent les films ou les livres de façon différente à chaque fois et on peut avoir des lectures différentes à chaque fois, mais c'est pour vrai. Le coup, c'est vrai qu'il y a cette densité de contenu dans, même si le mot est moche, dans Red Dead Redemption et surtout dans le 2, je pense, parce que le 1, c'est surtout les événements aléatoires, on va parler un peu jargon jeux vidéo, mais les événements aléatoires, ils arrivent souvent quand on va d'un point A à un point B, quelqu'un qui demande de l'aide, alors en fait c'est un guet-apens par exemple. Et ensuite il y a les quêtes annexes, qui sont des petites histoires parallèles à l'intrigue principale. Là, dans le 1, il y en a certaines qui sont vraiment intéressantes. On peut tout à fait passer à côté, même si elles sont marquées sur la carte, etc. Et dans le 2, pour le coup, les événements aléatoires, encore une fois, qui arrivent dans le monde ouvert, sont très intéressants. Il y en a qui sont très marquants. Il y en a qui ont marqué beaucoup, comme ce passage où on rencontre un groupe du Ku Klux Klan qui s'enflamme tout seul. Et c'est assez ridicule. On a le choix d'aller tous les tuer. Ce qui, d'ailleurs, n'affecte pas notre jauge d'honneur, mais c'est autre chose. Et par exemple, je me souviens, j'ai rejoué l'autre jour et je passais devant c'est marqué par une petite fumée qui monte comme ça à chaque fois, parce que les gens font des feux, oui, à cette époque-là, parce qu'ils n'ont pas le choix, pour pouvoir s'éclairer la nuit. Et en fait, on voit une famille qui construit sa petite maison, donc on voit la charpente de bois comme ça, et c'est les deux enfants du patriarche qui construisent la maison, la barricade tombe, et c'est tout. Et t'as ce moment de vie-là, qui ne t'apporte rien en termes de gameplay, il n'y a pas de carotte à la fin, il n'y a pas un point en plus, il n'y a pas un objet en plus, mais tu dis...
Ils vivent sans moi.
C'est drôle, c'est rigolo, ça apporte de la texture, ça apporte de la densité au monde dans lequel je vis, et c'est intéressant justement que ça ne t'apporte rien.
On est ensemble pour parler de la franchise Red Dead Redemption, mais pour le moment, on va écouter I Am avec un bon son brut pour les truands.
Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions. Marseille et sa production. Une musique pas faite pour 100 personnes, mais pour des millions.
Je descends de ma montagne à cheval, sorti de ma retraite en moigne, ma bougie. Je déballe mon baluchon à froid dans la plus pure tradition. La maîtrise est totale, tel le ninja en action. L'inné et l'acquis se confondent. Les mecs m'observent, je crée dans leur tête une confusion profonde. Son de mon esprit, tu perdras le tien. N'éveille pas le dragon, la bête est plus affamée qu'une meute de chien. Nourrie aux grosses caisses, aux claps, pour que ça frappe. Pas de mélodie pour avouer le massacre. Ombre furtive, tranche la nuit comme des shurikens. Mon boken brille, le style de la mouette s'abat sur sa proie. Maître canot du style Olipo, Ivo de Tao, Drunken style pow, un de plus dans le pow. Calligraphie, ce texte est dédié au Rataclan. Un bon son brut pour les truands.
Ne lâche pas le mic et les gluants.
I am casse la baraque avec des lyrics tonitruants.
Attaque avec grade chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
Ne lâche pas le mic et les gluants.
Aïe, me casse la baraque avec des lyrics toniques truants.
Attaque avec grade chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
Celui qui nique ma zik, votre shit, les sales flics. Chez nous se prennent des coups de predator kick. Fixe ou je te mystifie comme un Twix, aussi sauvage que des Nyx. Le manimal revient avec sa clique, toujours les mêmes, les cigariers d'apocalypse. Regarde à l'horizon, c'est notre bannière qui se hisse. I am, je le suis et je le reste, un casse-tête. Mise sur moi, garçon, ceux qui renient mon sang finiront par se prendre à coups de tête sur les murs. La nature des éléments me pousse aux trousses des ordures. L'impur devient pur en maîtrisant l'écriture. Sur tes mix, tape and blast. Gravé côté obscur dedans. Un bon son brut pour les truands. À présent mature, ma vie se passe sur des mélodies, les ratures. Sur mes pages, m'ont forgé mon esprit conscient. Que ma vocation va servir à l'expansion de mon école, fils. Celle du micro d'argent. Mon subconscient me guide, l'infini pouvoir limpide. Regarde ce que peut faire un bon quand tu joues les truands. Écoute le dernier Freeman du clan des 108 dragons. Ne lâche pas le mic et les gluants.
Aïe, me casse la baraque avec des lyrics tonic truants.
Attaque avec grade chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
Ne lâche pas le mic et les gluants.
Aïe, me casse la baraque avec des lyrics tonic truants.
Attaque avec grade chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
Hola amigo, je réplique avec un pack de saligo. Et plein de mecs pour imiquer le bénéfice au gringo. Un bon son brut, lâche ta zik et les renza. Cerveza dans la pogne, reconnaissez-moi Sentenza. J'espère que t'es rapide, kid, ou ton beat est un beat de flop. Si tu viens me tuer, ne raconte pas ta vie mec. Car je me méfie de tout et ne sous-estime rien. Même le pire dépouilleux a un ange gardien. Attablé ma bouche pleine coude, un plat de fazoule. En poche de trois boules, exécute les contrats sur des 4 zoules, les fauriens. Apprécie ce son, c'est pas bruyant. C'est comme pâle commercialisé, rien que pour les chiens. 100% faillot fait abstraction. Les ragots blondins ne meurent pas. Lâche ta planque ou tu caches le magot. Cowboy en valeur, il ne pète pas au royaume des puants. Ce beat est désigné que pour les crapules aux francs suants.
Ne lâche pas le mic et le gluant.
Ayem casse la baraque avec des lyrics tonic truants.
Attaque avec le grain de chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
Ne lâche pas le mic et les gluants.
Ayem casse la baraque avec des lyrics tonic truants.
Attaque avec le grain de chacal puant.
Un bon son brut pour les truands.
Attention qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Seek redemption all. It's never too late.
Help a blind man.
Here you go.
They will come for you, friend. And when they do, you will not have a choice. But you have lived better than most.
All right, mister.
Un extrait de Red Dead Redemption 2 où John Marston rencontre le mendiant aveugle, celui qu'Arthur Morgan, le héros de Red Dead 2, appelle le prophète dans son journal et qui se lance face à John dans un discours prémonitoire. Il lui dit « Ils viendront s'occuper de vous tôt ou tard, l'ami, et quand ça arrivera, vous n'aurez pas le choix ». Vous avez bien mieux vécu que beaucoup d'autres. John Marston est joué par Rob Witthoff et le mendiant aveugle est interprété par Tom Hare. Alors, ma question suivante, c'est que Rockstar, en fait, et les jeux Red Dead Redemption, tout comme GTA, parlent de l'Amérique, mais parlent aussi de l'envers du décor du capitalisme. Et dans les Red Dead, on s'intéresse en quelque sorte à la façon dont le capitalisme a forgé la géographie des États-Unis. Et ce rapport de la construction du jeu à la construction des États-Unis, Romain Danois a quelque chose à en dire.
Le western, en gros, c'est la fin de la guerre de sécession et le début de la Première Guerre mondiale. Et le premier jeu, Red Dead Redemption, justement, s'arrête, la dernière séquence s'arrête en 1914. Donc, le début de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est pas du tout au hasard. On parle vraiment de la fin d'une ère. On note aussi que toute cette dimension historique américaine se construit sur cette notion de guerre, d'opposition, de violence. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans le second jeu, Red Dead Redemption 2, où on a, en guise de héros, si je puis dire, une bande de criminels qui sont constitués à la fois de gens en marge de la société, mais aussi d'anciennes prostituées, d'étrangers, d'anciens Mexicains, qui ont tous quelque chose finalement à vouloir à la société en général. Et toutes ces personnes-là se réunissent et forment une espèce de micro-société. Oui, ce sont des criminels, mais finalement, eux-mêmes cherchent le bonheur. Ils cherchent leur place dans la société, ils cherchent le bonheur, mais ils cherchent ces concepts de stabilité dans une société qui est en perpétuel mouvement. Eux-mêmes représentent le monde d'avant. Et en représentant le monde d'avant, forcément, ils ne vont pas pouvoir réellement survivre. Donc Red Dead Redemption 2, c'est également cette histoire-là, toute cette dimension derrière de l'histoire de la violence des États-Unis qui mène à une civilisation, une époque qui est finalement notre époque actuelle, qui a du mal à se trouver une identité et qui est tout à fait ce que l'on vit encore aujourd'hui en 2024, c'est-à-dire des personnalités, des peuples, des différentes visions sociologiques qui se heurtent et qui font partie inhérente de l'histoire des États-Unis.
Christopher Klippel, est-ce que Rockstar se spécialise dans le récit de la construction obscure des États-Unis? Est-ce que c'est un petit peu la version non officielle qui les intéresse?
Un petit peu quand même, hein. On peut le voir, n'empêche, déjà avec GTA, qui est une satire totale de l'Amérique, où l'idée c'est vraiment de se foutre un petit peu du mode de consommation, du mode de vie américain, avec de nombreux clins d'œil et easter eggs qui les tournent un petit peu en ridicule. Donc c'est vrai que Rockstar n'est pas vraiment dans ce côté-là où les Américains ont toujours le bon rôle, ils ont un petit peu ce côté où ils vont dénoncer les dérives de la société américaine, autant dans les dérives actuelles avec GTA que dans les dérives passées avec justement Red Dead Redemption.
Erwan Carillo, est-ce que Red Dead Redemption, tout comme pouvait l'être GTA, ce sont un petit peu les livres d'histoire cachés des États-Unis?
Bah, Alors, je sais pas si on peut considérer ça vraiment comme des documents historiques. Alors déjà, les lieux sont fictifs, les États sont fictifs. Alors, la période historique est, elle, bien réelle. Moi, je trouve la force de GTA, et là, on parle de Red Dead Redemption, c'est aussi d'avoir les grands thèmes. C'est les grands thèmes de cette Amérique, effectivement, crépusculaire de la fin du 19e, début du 20e siècle. Mais c'est de porter une sorte de grand récit vous parliez tout à l'heure de cette histoire, chaque joueur a sa propre histoire. N'empêche qu'il y a une grande histoire. Il y a l'histoire d'Arthur Morgan, il y a l'histoire de John Marston. Ça, cette histoire, globalement, elle est la même pour tous les joueurs. Et la force de Rockstar, c'est de porter ça par des récits fous avec des thématiques... La rédemption, évidemment, l'émancipation, la marge, la position par rapport au progrès, le fait de savoir qu'on a perdu, de savoir qu'on est du côté des perdants, toujours, pratiquement, on est toujours du côté des perdants dans Rockstar. On essaye de s'en sortir, mais on sait que c'est mal barré quand même. Moi, j'ai plus une perception mythologique des univers de Rockstar, plus que historique. On est sur les grands mythes américains plutôt que sur des purs documents d'histoire.
Il y a aussi une mise en scène particulière de la violence et du rapport à l'argent dans les productions Rockstar et dans Red Dead Redemption, ça n'y échappe pas. Diogo, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe à la fois dénoncer le côté l'Amérique s'est construit sur la violence et sur l'argent à tout va, avec un jeu qui, mine de rien, génère un profit incroyable par une grosse boîte
Rockstar, même si Red Dead Redemption, c'était l'opéra à San Diego, Rockstar San Diego, qui était précédemment Angel Studio. Mm-hmm. Rockstar, c'est avant tout des Anglais qui viennent du nord de l'Angleterre, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Donc des mecs qui ont leur style d'humour particulier, leur vision du monde qui est particulière. Donc ils se moquent allègrement des États-Unis quand ils font ça, mais ils parlent en plus généralement de cette façon du monde occidental plus que des États-Unis. Et c'est raconté très peu subtilement dès les débuts des deux premiers jeux, en fait. Par exemple, Red Dead Redemption 1 s'ouvre sur un dialogue dans un train entre une vieille dame qui se dit « Ah, mais enfin, les voies ferrées arrivent dans l'Ouest américain, on va enfin pouvoir apporter la civilisation face à l'ensauvagement. » Voilà, des termes qui sont encore utilisés aujourd'hui, malheureusement. Et dans le 2, Arthur Morgan et sa bande, la bande à Dutch, fuient absolument ce qu'ils appellent la civilisation. Alors, ils utilisent ça de façon un peu familière, parce que la civilisation, avec un grand C, c'est autre chose. Il n'existe pas de civilisation américaine, comme il n'existe pas de civilisation occidentale en tant que telle. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que ça.
C'est une construction.
C'est une construction, voilà. Mais pour le coup, on sent qu'il y a un vrai attachement entre les protagonistes et la vision de ces créateurs de l'Amérique en général. Mais après, oui, ils savent très bien ce qu'ils font. Et le paradoxe, il est là. Il est aussi dans la façon avec laquelle le joueur interagit avec l'environnement, c'est-à-dire en commettant des crimes, en exploitant au maximum toutes ces ficelles, au fait.
Christopher Klippel, il y a aussi un rapport à la musique très particulier dans Red Dead Redemption. On n'a pas affaire à une bande-son permanente, mais elle sait disparaître. Des fois, juste quelques notes se font entendre, et puis tout d'un coup, il y a un silence. Il y a une conception très particulière de la musique dans ce jeu.
Alors totalement, en plus il faut savoir que Red Dead Redemption est le premier jeu Rockstar qui va avoir le droit à sa soundtrack intégrale composée par Woody Jackson. Il va revenir d'ailleurs avec Red Dead Redemption 2, et donc oui, là on a une musique qui en fait Dan Houser, le cofondateur de Rockstar et donc le scénariste de tous les jeux Rockstar, disait en 2008 avec la sortie de GTA 4 que la ville de Liberty City pouvait être considérée comme un personnage à part entière du jeu, tant elle était importante et tant elle allait immerger le joueur. Et je pense que la musique dans Red Dead Redemption et Red Dead Redemption 2 peut également être considérée comme un personnage du jeu, tant elle va complètement sublimer certaines scènes. Je pense notamment au final de l'acte du chapitre 3, où la bande de Dutch vont prendre d'assaut une demeure où déjà la mise en scène est complètement dingue, mais derrière on a cette musique entraînante qui va rajouter énormément. Et il y a tellement de points que l'on peut citer rien que dans Red Dead Redemption 2 où la musique va tout simplement changer l'expérience. Je pense à la musique See the Fire in Your Eyes qui apparaît au tout début du jeu, à la fin, lorsque lorsque justement la bande de Dutch quitte les montagnes enneigées pour retrouver la civilisation, la musique à la fin lorsque Arthur Morgan s'en va vers son destin. Enfin, la musique joue un rôle vraiment primordial, tout comme dans chaque bon film, chaque bonne série, il y a toujours derrière un très bon compositeur, une très bonne musique qui va accompagner notre expérience et qui va la sublimer. Et dans Red Dead Redemption, plus que dans GTA, je trouve, Rockstar l'a très bien compris et l'a parfaitement exécuté.
C'est intéressant parce qu'il y a pas de son en fait à cette époque-là. On a des enregistrements des mœurs de musicaux des bourgeoises de l'époque, mais il n'y a pas vraiment de son à cette époque-là. Qu'est-ce qui reprend vraiment le son de l'Amérique du début du XXe siècle en fait? Et ce qui est intéressant au-delà de la musique, c'est aussi les effets sonores, c'est-à-dire le bruit du cheval sur les différents terrains, etc. Et parce qu'il n'y a pas de musique en fait. Dans la 90% du jeu, il n'y a pas de musique quand on va d'un point A à un point B. La musique dans Red Dead Redemption, elle arrive quand il y a des événements, des rencontres, souvent des batailles, des gunfights, des fusillades. Voilà, j'avais pas le mot, excusez-moi. Et il y a un moment qui est assez marquant, c'est que dans Red Dead Redemption 1, quand on arrive, on traverse la frontière et qu'on arrive au Mexique, c'est un grand moment du jeu, oui. Il y a une musique qui arrive et c'est
qu'on a entendu en début d'émission.
Voilà, c'est pas tellement, c'est pas My Wife, My Pony and Me, c'est pas quelque chose de comme ça, un peu John Wayne X ou quoi. C'est limite du rock indé un peu, mais c'est mis avec une telle subtilité, avec une telle justesse que ça passe. Et donc, il se réapproprie les codes du genre cinématographique du western, mais il n'oublie pas d'en faire quelque chose de moderne.
De moderne. En fait. Et ça reste, c'est un des plus grands moments de jeu vidéo de l'histoire du jeu vidéo. L'arrivée au Mexique dans Red Dead Redemption. Far Away José González, c'est un des plus grands moments de jeux vidéo.
Amen.
Amen, voilà.
Parlons musique justement, on va faire une pause musicale en écoutant So Long Chicago de Poké Lafarge.
I ain't got a final plan.
I have a plan.
Well, you leave the planning to me. This is all going to plan. We have to stick with the plan. You just have to trust me.
Who's the man with the farmer's tan? Hotel slippers, margarita in his hand. Lots of juice, lots of spice. Me and Montezuma gonna roll the dice. Chicago. Hello, Mexico. It's so long, Chicago. Hello, Mexico. Never been west of the Mississippi. Never seen the beach. Never been out the city. But I'm jumping in. This flatlander gonna learn to swim. Chicago. Hello, Mexico. It's so long, Chicago. Hello, Mexico. Chicago.
Blockbuster, Frédéric Sigrist.
Hello, Mexico.
I need someone to ride with me.
Do what?
Finish off them O'Driscolls. I hear the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch.
I don't have it in me no more. I saw Colm swing. I just don't care.
I was a married woman. You know what they did to me and to my husband? You're the only one of these fools that I trust. I've got to do this.
I'll tell you what. I'll do it. But there's something you could help me with. Abigail, Jack, John, make sure they make it. I mean, this whole thing is pretty much done. But when the time comes...
Or how do you mean?
When the time comes, you help them.
What do you mean?
I mean, help them escape. When I... You know, you and me, we're more ghosts than people. But them, they could...
I know. Of course I will. Thank you, Arthur.
Un nouvel extrait de Red Dead Redemption 2. Vous avez pu entendre Arthur Morgan, joué par Roger Clark, et Sadie Adler, un des personnages préférés de tout joueur de Red Dead 2, joué par Alex McKenna. C'est une femme que la vie a marquée et qui en fait est consumée par la vengeance. Et en fait, dans cet échange avec Arthur Morgan, elle l'invite à le rejoindre dans une énième expédition punitive contre les O'Driscoll, le gang à qui l'on veut. Et il demande à Sadie qu'en échange, elle s'occupe de donner une chance à John Marston et sa famille. Et Arthur a cette fameuse réplique « You and me, we are more ghosts than people, but them. Nous deux, nous sommes plus des fantômes que des gens, mais eux, ils pourraient. » Je sais, le couple Sadie avant d'accepter. Et en fait, cette discussion entre ces deux personnages, ça résume parfaitement l'atmosphère crépusculaire de ce jeu. Et on a pu l'entendre, et c'est pour ça que c'était très important pour nous aussi de laisser la VO. Alors, il n'y a pas de VF, mais en l'occurrence, de vraiment donner le temps d'écouter l'interprétation des comédiens. Parce que Red Dead Redemption 2 a vraiment fait basculer, plus encore que n'importe quel autre jeu, le jeu vidéo, dans un art qui est plus que du cinéma et en même temps pas du cinéma, mais autre chose, une autre forme d'interprétation. Erwan Carillo, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette cinématographie qu'on a retrouvée ensuite dans d'autres jeux très très bons comme Last of Us, comme God of War?
On pense à ça, oui, on pense à ça évidemment, on pense à The Last of Us avec ces grands studios qui peuvent se permettre d'aller du côté du cinéma pour faire jouer leurs personnages comme on fait jouer des acteurs, avec, on l'a entendu, la façon de jouer, la maîtrise comme ça de la voix, et ça change tout quand on joue et qu'on est face à des scènes comme ça. Avant, quand on est joueur, on avait ce qu'on appelait les scènes cinématiques. Les scènes cinématiques, c'est là où on posait la manette. Bon, si on était sur un jeu de Kojima, on posait la manette longtemps, mais... Ça peut être le cas encore, mais là, on est happé par le jeu quand même. On reste dans le jeu parce que, en plus, le jeu ne nous dit pas poser la manette. Des fois, ça va être une réplique et on va devoir la reprendre tout de suite. C'est totalement, vu que tout est fait avec le même moteur, c'est la technologie est depuis 2018 et même 2010 à l'époque, mais il n'y a plus ces ruptures d'images, c'est les mêmes images tout le temps. Donc en fait, le jeu peut avoir cette particularité de laisser le contrôle à la joueuse, au joueur, tout en mettant en scène et en gérant des acteurs comme on le fait dans le cinéma. Et ça donne une puissance d'immersion qui est totalement folle. Et on le répète, c'est des moyens monumentaux. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a très très peu de studios. J'aimerais beaucoup que depuis 2018, on ait eu des dizaines et des dizaines de jeux de la valeur de Red Dead Redemption 2. Il faut quand même des budgets monumentaux pour faire ça.
Il faut déjà avoir fait les GTA avant pour pouvoir faire ça.
Mais le résultat est fou. Ça donne une... Moi, en tant que joueur, ça devient une obsession. J'ai envie d'être dans Red Dead Redemption 2 plus qu'être dans ma vie, parce que je joue quelque chose d'unique.
Je pense déjà aux auditeurs les plus récalcitrants qui vont entendre cette réaction et vont dire « Ah bah voilà ! Et bah voilà ! Voilà les jeux vidéo, c'est une évasion du réel ! C'est une escapade !»
On en a besoin.
Faut pas leur dire.
Ah bon ?
C'est la saison où je vais chuchoter toutes les émissions, en fait, maintenant. Diego Ribeiro, au niveau de cette cinématographie et de cette nouvelle manière de recevoir les histoires, est-ce que même si, voilà, on a parlé d'autres exemples, comme même Death Stranding dernièrement, est-ce que c'est vraiment Red Dead Redemption qui a posé les bases de cette nouvelle narration du jeu vidéo?
Je ne sais pas si c'est une nouvelle narration ou si c'est juste l'enrichissement de quelque chose qui se faisait déjà avant. En fait, à cette génération-là, la génération PlayStation 3 et Xbox 360, pour les auditeurs qui ne sont peut-être pas trop au fait de ce genre de choses-là, elle arrivait au mi-temps des années 2000. Et c'était à cette époque-là où le jeu vidéo, où on avait la promesse de « Ah, ça y est, maintenant, on va avoir des jeux qui ressemblent à quelque chose, entre guillemets, pour le grand public. » Parce qu'il y avait toujours cette image, pour les gens qui sont un peu distanciés du jeu vidéo, de dire « Ah, ça se voit que c'est du jeu vidéo. Donc, je vois que c'est du jeu vidéo, donc ça ne me plaît pas trop. » Et plus l'image est réaliste et plus le rendu est fidèle à la réalité, plus le grand public peut trouver ça palpable, en tout cas dans... C'était un peu l'idée de l'époque. On s'était dit, voilà, ça va être la génération de toutes les promesses. On va faire du jeu vidéo qui va être, entre guillemets, un spectacle, du jeu vidéo prestige. Un peu comme HBO avait fait à la fin des années 90, de la TV prestige, de la TV avec Les Sopranos, avec The Wire, qui sont des excellentes séries, nonobstant. Mais il y avait cette idée, voilà, de faire du jeu vidéo qui se rapprochait presque au maximum du cinéma, parce que le cinéma, c'est un art respectable et le jeu vidéo, pas encore. Alors, c'est plus compliqué que ça. Quand tu parles de... Moi, je dirais pas que Red Dead soit une révolution en termes de narration ou de cinématographie, peut-être, de mise en scène, parce qu'ils ont de très bons interprètes et de très bons moyens, comme l'a dit Erwan Cario. Mais moi, je pense à des jeux comme Ico, je pense à des jeux comme, oui, Shadow of the Colossus, je pense à des jeux qui eux, n'avaient pas besoin, enfin, il y a aussi beaucoup de moyens, mais ils n'avaient pas besoin d'utiliser trop de codes du cinéma pour transmettre une émotion.
Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on retrouve avec Elden Ring, qui a presque une sorte d'héritage de ces jeux que vous venez de citer, Ico, Shadow of Colossus, beaucoup plus que de jeux comme Red Dead.
C'est une façon de transmettre l'émotion vers d'autres mécaniques que des extraits cinématiques qui sont faits avec de la motion capture, des interprètes de très bonne facture qui font de très bons doublages, qui jouent leur personnage avec beaucoup de passion. Par contre, oui, pour le coup, là, je pense qu'à l'époque, Rockstar avait peut-être atteint une sorte de plafond à ce niveau-là pour le public, le grand public. Et aussi, enfin, je me souviens même, en 2008, Libération a fait une pour GTA 4, ils disaient le plus grand jeu du monde, un truc comme ça. C'était l'idée vraiment que, voilà, maintenant le jeu vidéo va être quelque chose de différent. Alors, en effet, il a changé. Je ne sais pas, je vais pas dire si c'est en mieux ou en moins bien, mais en tout cas, il a changé. Et forcément, ça a influencé d'autres studios, mais plutôt des studios occidentaux, je pense. Notamment Naughty Dog avec voilà, leur idée de faire The Last of Us, de faire quelque chose de, encore une fois, respectable dans le sens, un produit qui va plaire même aux gens qui sont un peu distanciés du jeu vidéo.
Christopher, quel est votre point de vue sur justement ce changement qui a été initié par Red Dead ?
Pour moi, en fait, le changement de Red Dead est sur le point où il est révolutionnaire, c'est que ça arrive à être un jeu qui est tout en un, en fait, on va dire. C'est vrai qu'on l'a dit jusqu'à maintenant, le jeu vidéo, certains studios étaient spécialisés dans un domaine. On parle beaucoup de Naughty Dog avec The Last of Us. Pour moi, c'est véritablement eux qui ont un petit peu, on va dire, mis l'accent sur la narration avec le premier The Last of Us en 2013 qui était extrêmement marquant. On peut citer aussi un studio français, Quantic Dream, qui a fait beaucoup de jeux avec Evil Wayne ou Detroit Become Human, qui met aussi l'accent sur la narration, mais en fait on avait vraiment ces jeux qui étaient, on va dire, centrés sur la narration, avec un jeu, ce qu'on appelle un jeu de couloir, c'est-à-dire qu'on va d'un point A à un point B, il y a des missions qui sont très, on va dire, scénarisées. Et d'un côté, il y avait des studios comme Rockstar qui excellaient dans ce qu'on appelle l'open world, mais bien que la qualité d'écriture des jeux Rockstar, notamment des GTA, est de grande qualité, on ne peut pas non plus mettre un GTA à la hauteur d'un Naughty Dog ou d'un The Last of Us dans sa qualité d'écriture, dans son travail de personnage. Et pour moi, en fait, Red Dead Redemption 2, c'est vraiment le jeu qui a réussi à allier tout cela. En fait, Red Dead, c'est peut-être deux jeux en un. Il y a le jeu, vraiment l'aventure principale, mais il y a aussi l'à côté où justement l'aventure principale, c'est l'histoire d'Arthur Morgan et de la bande de Dutch Van Der Linde qui va un petit peu, on va dire, lutter contre cette fin de l'Ouest, mais il y a aussi l'histoire à côté, où là, c'est l'histoire du joueur, où on va simplement se balader dans les villes, dans les campagnes, et voir un petit peu comment le jeu évolue, et ça, c'est vraiment important. Et c'est sur ça, pour moi, qu'est la révolution de Rockstar, qui a réussi à allier cette narration incroyable avec cette mise en scène, ce travail des personnages, avec tous ces à côté, ces petits détails, ce souci du détail que l'on retrouve dans aucun jeu, parce que, eh ben, justement, il y a besoin, ben, par exemple, de 9 ans de développement, comme c'est le cas pour Red Dead Redemption 2, des millions et des millions de dollars d'investissement pour pouvoir faire tout cela. Et donc, c'est en ça, pour moi, que vraiment le jeu est un basculement et marque vraiment un avant et un après.
What do you want, gringo? What are you doing here? Have you heard?
There's a war going on.
My name's John Marston. Been sent here to retrieve a couple of men. Can I speak to your commander?
You come to my country, and you think you can be friends with the president?
No, sir. So I'm sorry, sir.
J'ai couché nos peines, j'ai couché nos larmes. Au pied de la frontière, j'ai posé les armes. Cherchant un jour de plus la route de Vénus. Le silence de l'aube a fait taire les chiens. Au bord du plateau s'accordent les musiciens. Il faudrait
C'était la route de Vénus d'Émilie Loiseau.
Rockstar was founded with a mission statement.
Rockstar Games a été fondé sur le principe que les jeux vidéo seraient le prochain gros marché dans les médias de divertissement. Ils présentaient une puissance et un intérêt uniques et que notre société servirait deux maîtres pour le prouver. Combiner la qualité de production du cinéma avec une obsession pour le gameplay par-dessus tout. En 98 et 99, on a commencé à crier ça sur les toits à qui voulait l'entendre. Quelques personnes se sont moquées de notre orgueil, chez les développeurs comme dans les médias. La plupart des gens nous ont simplement ignorés. Et aujourd'hui, à ma connaissance, c'est la première fois que les BAFTA décernent une récompense à 900 personnes en même temps.
C'était les mots de Dan Houser qui recevait des mains d'Hideo Kojima, une autre légende du jeu vidéo, en 2014, le BAFTA Fellowship, considéré comme le prix le plus prestigieux de la cérémonie pour le travail effectué par son studio Rockstar sur le jeu GTA V. Personnellement, quand j'ai fait Red Dead Redemption 1 et 2, ce qui m'est apparu a posteriori, c'est que j'ai eu l'impression que c'était la première fois que je jouais un jeu de zombies où, sans le savoir, j'incarnais le zombie. Car les héros de Red Dead sont condamnés presque dès le début, on le sait, qu'il y a quelque chose qui... Bah, c'est quand même...
Même dans le 1 ?
Ah, il y a une grosse épée de Damoclès, hein, c'est-à-dire que...
Je te laisse assumer tes propos.
et en fait, je me suis dit, habituellement, dans les jeux de, en monde ouvert, comme ça, on incarne des héros qui deviennent de plus en plus puissants, qui vont aller, comme ça, vers pas forcément un happy end, mais quelque chose de beaucoup plus glorieux, alors que pour Red Dead 1, comme pour Red Dead 2, on va vers quelque chose d'inéluctable, et même... Le héros, on sent qu'il y a laissé beaucoup de plumes, beaucoup de lui. C'est assez rare comme construction aussi, Erwan Cario.
Et il est désagréable à jouer. Arthur Morgan, oui. Red Dead Redemption 2, il est désagréable à jouer. Il est cruel, il est insupportable. On nous oblige...
Les mots sont durs.
Oh bah, quand même, il va tabasser des gens pour récupérer de l'argent. C'est un hors-la-loi, mais c'est au-delà du hors-la-loi. On n'est pas sur le hors-la-loi, le Robin des Bois. Hein. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur la crapule. On est sur l'homme violent. On est sur...
Dutch, le chef de la bande, est une crevure aussi. Hein.
Oui, et Arthur Morgan est un pantin. Il obéit, c'est un soldat, il obéit aux ordres. Et qui joue ? Qui tape les innocents ? C'est nous ? C'est avec le pad ? On appuie sur
moi, c'est mes enfants. Moi, je ne me serais pas
permis
de faire
sûr.
Ça. Moi, je
bien
les regardais jouer.
Mais le jeu nous met dans une situation impossible, désagréable. Alors, quand on est à faire des duels avec des gens à tirer dans la tête des méchants qui sont à 50 mètres, ça va, on gère, on sait jouer. Mais quand il faut taper des innocents pour récupérer l'argent qu'ils doivent à l'usurier et tout ça, c'est ultra désagréable. Et la force de ça, c'est de nous mettre dans cette situation-là, de détester Arthur Morgan, de détester notre avatar, en tout cas dans une bonne partie du jeu, et de se rendre compte qu'il y a autre chose qui se joue. Ça s'appelle Red Dead Redemption, pas pour rien, mais on se dit, ça, on va pas devenir un héros pour autant. C'est-à-dire, la sortie n'est pas la sortie forcément vers le haut, mais c'est passionnant, et je trouve que c'est un tour de force, surtout dans Red Dead Redemption 2, de nous mettre dans la peau comme ça de cet avatar, de ce zombie, comme vous le disiez tout à l'heure, mais vraiment désagréable à jouer, et de nous porter comme ça vers une aventure qui dépasse le personnage, qui nous dépasse, et enfin, c'est fou.
Diogo, je crois que vous voulez nuancer.
Je n'irai pas jusque-là, parce que justement, le moment le plus crapuleux de Arthur Morgan, il a des conséquences, et au début on ne le sait pas, on le sait plus tard, mais il y a une scène où il doit aller frapper quelqu'un, pour le coup, qui n'avait vraiment rien demandé, pour récupérer de l'argent, et il s'ensuit des choses.
Ah, le karma.
C'est une très belle scène d'ailleurs, j'en dirai pas plus, parce que je laisserai les auditeurs découvrir cette scène-là. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que contrairement à GTA, dans GTA, quand on commet des crimes, quand on tue quelqu'un dans la rue, et que si quelqu'un nous voit et qu'on en attend un peu, voilà, une étoile arrive en haut de l'écran, qui veut dire que les flics nous recherchent. Donc il y a deux caisses de flics, deux étoiles c'est trois caisses, quatre étoiles c'est les hélicoptères et c'est l'armée, cinq étoiles c'est la Troisième Guerre mondiale. Bref, dans Red Dead c'est différent parce que...
Ce qui est un jeu vidéo, parce voilà. qu'il n'y aura jamais des budgets municipaux pour avoir autant de
voilà,
flics
et dans une les... Et je vais pas dire de mauvaises choses sur les flics parce que je n'ai pas envie non plus de me faire... Voilà. Mais dans Red Dead, il n'y avait pas encore de service d'ordre comme fédéral, en tout cas comme c'est le cas dans l'Amérique moderne ou dans le monde moderne. C'est-à-dire qu'il y avait des milices, il y a des shérifs, etc. qui ont leurs petits adjudants et voilà. Donc quand on commet un crime et qu'on se fait... qu'on s'est cafeté, quoi, quand il y a un témoin, on a une prime sur la tête. Et la prime, elle augmente très vite, et la prime, elle coûte de l'argent, parce que l'argent n'est pas abondant dans l'univers de Red Dead. Et c'est assez relou de faut aller dans une ville et aller payer sa dette, et dire, voilà, je paye ma prime.
Et puis les chasseurs de primes sont extrêmement dangereux.
Qu'on fiche la paix. Clair. Et c'est une différence fondamentale avec GTA, parce que dans GTA, quand on se cache un peu, les flics, ils font, bon, ouais, je pense qu'il est parti, puis hop, il taille manger des donuts, et puis tabasser des innocents, quoi. Dans Red Dead, c'est encore différent.
Heureusement qu'il y a deux minutes, vous disiez, oh, je veux rien dire sur les flics. Hein.
Voilà, ma carrière est finie. Ce rapport différent aux forces de l'ordre et en fait à l'honneur, parce que dans Red Dead, il y a une jauge, il y a une mécanique qui s'appelle l'honneur. Et ça donne un peu un côté roleplay qu'il n'y avait pas forcément dans les anciens jeux de Rockstar. Dans GTA, il n'y a pas du tout ça, par exemple. On suit vraiment une ligne droite, et même si on a égorgé 500 personnes avant, on peut retourner voir son cousin qui fait « Oh, Nico, comment ça va ?» Alors que dans Red Dead, c'est pas du tout ça. Dans Red Dead, on sent qu'il y a quand même une volonté de la part de Rockstar de...
Responsabiliser...
C'est ça, et de mettre vraiment son protagoniste en avant. John Marston et Arthur Morgan sont les meilleurs protagonistes, je pense, de Rockstar jusqu'à cette époque-là, et même encore aujourd'hui, parce que c'est pas vraiment la grande force de Rockstar de faire des protagonistes vraiment, vraiment emblématiques. Mais pour le coup, ces deux-là sont vraiment de super personnages, et je pense que c'est une des grandes forces des deux jeux.
Eh bien, merci Christopher Klippel, merci Diogo Ribeiro, voilà, il fallait que je le dise une dernière fois, merci Erwan Garrillo,
merci.
D'avoir été sur cette antenne pour parler de cette franchise incroyable, et d'ailleurs, j'invite une nouvelle fois les auditeurs et les auditrices à s'y essayer, vraiment, c'est comme un excellent livre, une excellente série, un merveilleux film, c'est une aventure que vous n'oublierez pas, je vous le garantis. C'est la fin de cette émission, et c'est l'heure des remerciements, une émission qui a été réalisée par Charles de Silia, Elle a été préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani, avec l'aide d'Emilien Miloc et de Camille Olive, et à la technique aujourd'hui, Maxime Goudard. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20 pour nous parler jeux vidéo, cinéma, bande dessinée, n'hésitez pas. Me poser des questions directement sur Instagram, @fredsigrist. Je suis facile à trouver. Et demain, on se retrouve pour parler du papa de Gaston Lagaffe, André Franquin.
I had a plan. I still have a plan.
What plan? What goddamn plan, Dutch? Tahiti? Timbuktu?
That's enough!